Wesley.
Salut tout le monde.
Je vais faire mon backup.
Donc, moi, c'est Alain Savard. Moi, je suis. Juste pour vous donner un petit peu de background, là, j'ai co-écrit le livre pour une écologie du 99%, 20 mythes pour débolonner sur le capitalisme. Donc, c'est le troisième cours d'une série 3. Juste pour faire un petit sondage rapidement, là, juste pour voir à qui je m'adresse ici. Je voulais savoir là, qui a assisté à au moins un des deux cours. Pas pire. Puis, qui a assisté aux deux cours? Ah, c'est pas pire aussi. All right. Fait que je m'étendrai pas trop longtemps sur le background du livre, etc. La plupart d'entre vous le savez. Moi, personnellement, j'ai milité longtemps dans le mouvement étudiant. C'est d'ailleurs dans ce mouvement-là que j'ai rencontré Frédéric et Arnaud. J'ai participé, entre autres, à la grève de 2012. J'étais sur l'exécutif de la classe à un certain moment de la grève. Depuis, j'ai fait un doctorat en sciences politiques à l'Université York. Ma thèse porte sur une théorie du pouvoir. C'est vaste, c'est ambitieux. C'est pas super facile à lire, mais ça m'a procuré beaucoup de plaisir de l'écrire. Puis, depuis quelques années, en fait, je travaille comme conseiller syndical à la CSN, à la Fédération du commerce. Donc, je travaille avec des syndiqués dans le commerce de détail, dans l'industrie agroalimentaire et compagnie. Je fais part au boss, puis c'est très amusant aussi. Ceci dit, ça, c'est un petit peu pour mon background. Je veux quand même faire un petit recap là, des derniers cours, là, juste pour qu'on passe sur les mêmes bases. Puis je vais demander votre collaboration, parce qu'il y en a plein qui ont assisté aux deux cours. Fait qu'admettons, là, si je vous demande c'est quoi le capitalisme, là, est-ce que quelqu'un peut me donner une petite définition? Qu'est-ce que vous avez retenu?
Dépendance au marché.
Dépendance au marché, quoi d'autre?
Accumulation du capital.
Accumulation du capital. Qui accumule du capital?
Les capitalistes.
Puis comment ils font? Comment ils font pour accumuler du capital? C'est quoi leur secret?
Exploitation.
C'est la différence entre ce qu'un individu produit et ce qu'il a besoin pour vivre. La différence entre les deux est prise par
l'esclavage salarial.
Est prise par le...
Puis pourquoi moi demain matin je peux pas devenir un capitaliste comme ça?
Parce que
t'as pas déjà de capital. All right, c'est bon, on est pas pire. All right. Fait que... votre voisin, là, qui dit « Moi, je veux faire de l'argent dans la vie », est-ce que c'est un capitaliste?
Non.
C'est pas parce qu'il aime ça faire de l'argent ou qu'il aimerait ça faire de l'argent que c'est un capitaliste. Ce qui définit l'appartenance à la classe capitaliste, c'est la possession du capital en tant que tel. Puis les capitalistes, là, est-ce que du jour au lendemain, ils peuvent se dire... Moi, c'est fini, là, l'exploitation, là. Je veux devenir gentil et je veux faire attention à la planète.
C'est très possible.
Qu'est-ce qui va leur arriver s'ils font ça?
Ils vont se faire bouffer par les autres.
Ils seront plus des capitalistes, c'est ça. Puis ils vont juste se faire remplacer par quelqu'un d'autre. C'est ça le problème structurel qu'on a, right? All right. Fait que là, admettons que je pose la question. Pourquoi est-ce que le capitalisme est structurellement incompatible avec l'environnement?
Parce que le capitalisme exploite
la croissance.
Élaborer un petit peu, là.
Parce que la concurrence crée de la surproduction.
All right. C'est déjà un bon truc. Donc, la concurrence crée de la surproduction. Il y a d'autres éléments de réponse.
Ben, il faut toujours croire.
Oui, en arrière, là-bas.
Mais parce que les matières premières sont à la base de la production, puis il faut toujours aller chercher plus de matières premières pour produire davantage.
OK.
C'est la croissance infinie dans un
All right. Donc, puis pourquoi le capitalisme a besoin de cette croissance infinie-là? Pourquoi le capitalisme pousse à la croissance infinie?
Parce qu'elle repose sur le profit.
Elle repose sur le profit. Donc, chaque entreprise individuellement doit faire des profits. S'il arrête de faire ces profits-là, bien, il est surclassé par une autre entreprise. Puis tant qu'il essaie de toujours augmenter ses profits, bien, il pousse à la croissance comme ça. Puis éventuellement, effectivement, on arrive à nos limites planétaires. J'ajouterais qu'il y a une course constante dans laquelle l'augmentation de ta marge de profit, surtout comparée aux autres, te pousse dans une espèce de course vers le bas sur les normes sociales, les normes environnementales. On fait juste regarder l'exemple de la Chine, par exemple. On trouve que la Chine pollue beaucoup, mais la Chine pollue beaucoup parce que nos propres entreprises ont toutes déménagé là-bas pour faire la production là-bas parce que les normes environnementales étaient moins élevées, parce que la main-d'œuvre était plus cheap, puis ils pouvaient faire plus d'argent en faisant ça. T'sais. C'est pas super compliqué. All right. Ça résume bien ce bout-là. Oui?
Il y a aussi la question des actifs. Il y a une semaine, j'écoutais Éric Pinault qui expliquait qu'à partir du moment où une compagnie a investi énormément pour avoir accès à du pétrole ou accumuler quelques ressources naturelles que ce soit, une fois qu'ils ont accès à ça, ils vont tout faire pour l'exploiter, ils vont s'arranger, ils vont payer des pots de vin s'il faut pour changer des lois ou quoi que ce soit. Ils l'ont l'actif, ils vont le rentabiliser. Là.
Puis admettons que le gouvernement, il dit, t'as plus le droit de l'utiliser.
Ils vont tout faire ce qu'ils peuvent pour le garder.
Mais admettons qu'il dit, tu peux plus l'utiliser. Là. Le capitaliste, qu'est-ce qu'il va faire spontanément? Oui, ben essayer de l'attaquer à la justice, puis admettons qu'il parle. Il n'arrive pas à l'attaquer en justice. Qu'est-ce qu'il va réclamer?
Il va vendre son entreprise.
Il va demander d'essayer de
débarrasser. Ben juste vendre son entreprise, le problème, c'est que là, son terrain, il vaut plus rien, ouais, tu sais.
Des compensations.
Il va demander des compensations. Puis pourquoi le gouvernement va lui donner sa compensation dans notre système de concurrence internationale?
Il y a un tribunal,
parce qu'il y a le droit, en fait. Il y a le droit de faire du profit.
Il n'y a pas juste le tribunal. T'sais, oui, il y a des questions de tribunaux internationaux, mais il y a une question politique qui fait que le gouvernement il va céder.
Parce qu'il y a le droit à
la parce que privée. C'est que le gouvernement il est dans une situation de compétition internationale pour attirer des capitaux étrangers. Puis il a vraiment peur pour sa réputation. S'il commence à exproprier du monde sans dédommagement, bien là, ça nuit à sa réputation, ça nuit à l'attractivité internationale des capitaux. Et là, il va se dire, bien, si je fais ça, je vais le dédommager. Puis l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire, l'entreprise pétrolière, avec ses nouveaux millions de dollars dédommagés d'un puits de pétrole, où tu vas investir ailleurs? Anyway, tout ça est d'excellents arguments de réponse. Ça nous donne une bonne idée de la bête contre laquelle on est. Si on décrit rapidement, là, Frédéric vous a parlé il y a deux semaines de par quoi qu'on pourrait le remplacer. C'est quoi l'exemple qu'il vous a donné? C'est quoi le type de façon qu'on pourrait remplacer le capitalisme? Grossièrement, là.
Une économie démocratique, sauf qu'il n'a pas bien expliqué ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était des co-op ou est-ce que c'est des... C'est quoi, là? C'est moins clair.
Ouais, je comprends que c'est...
Des OSBL, des coopératives.
Il y avait une question aussi de, je pense que c'était à l'intérieur il me semble que c'était basé sur le travail, tu sais. À l'intérieur de ton travail, il y avait comme des décisions qui se prenaient sur qu'est-ce qu'on va, sur quoi on va investir, etc.
L'autogestion.
Oui.
C'était comme l'économie démocratique, donc.
La planification démocratique, elle doit se faire par les personnes qui sont concernées par l'enjeu.
Voilà.
Que ce soit des personnes qui vont travailler ou des personnes qui vont simplement vivre autour de l'enjeu, que ce soit l'hôpital, ou bien une personne qui ne travaille pas, mais parfois pour un cliché par l'environnement, ou bien les travailleurs qui peuvent planifier un démocratiquement les conditions de travail.
Je vais revenir un peu plus tard sur les problèmes de définir concrètement à quoi ça ressemble, puis pourquoi c'est difficile de saisir les modalités exactes de ce genre d'opération-là. Mais pourquoi, en principe, le fait de planifier démocratiquement serait meilleur pour l'environnement que le système qu'on a actuellement?
Ah, la planification versus la...
Mais pourquoi ça serait meilleur?
Parce que les gens ne vont pas travailler contre eux-mêmes, non? Ils vont
pas sur l'environnement, c'est toujours l'externalisation d'un sur des gens qui ne peuvent pas défendre leurs intérêts. Démocratiser, c'est les mettre à la table également. Parce qu'on va défendre aussi les intérêts des gens dominés, de la nature.
C'est
les gens du 99 et non pas du 1%, c'est-à-dire que le capitaliste, soit il est seul, soit il a son conseil d'administration, puis il gère son entreprise avec finalement peu de personnes. Tandis que si on a une économie démocratique, il va y avoir plus de gens impliqués, là, soit directement, soit indirectement.
Alright. Fait que là, pour aujourd'hui, on parle de ces constats-là. On parle du constat, on a un problème avec le capitalisme, on pourrait potentiellement le transformer pour avoir une économie qui serait planifiée démocratiquement. Puis on pense que ça serait, ça nous permettrait d'avoir un mode de vie qui respecterait les limites de la planète, puis qui correspond, puis qui produirait en fonction des besoins de la population dans ces limites-là, versus une économie qui produit finalement ou qui oriente l'ensemble de ses décisions de production autour de la profitabilité pour une minorité qui accumule. C'est un peu ça l'idée. Ouais.
Est-ce que l'espèce humaine n'est pas une minorité qui accumule? Je me demande juste si vous avez pensé aussi remettre en question ce qu'on pense la planète, cette merveilleuse, miraculeuse création, genre au milieu d'un océan de rien, comme étant quelque chose à avoir une limite, quelque chose qui comporte des ressources. C'est pas cette conception-là aussi qui est problématique.
Ben, moi la perspective sur laquelle je me base, c'est que les gens avec qui on peut prendre des décisions, c'est d'autres êtres humains. Fait qu'ultimement, la question qui se pose, c'est comment, entre êtres humains, on se comporte pour... pour arriver à des fins qui sont souhaitables. Puis la souhaitabilité, elle se définit aussi par les autres humains, au sens où c'est entre êtres humains, finalement, qu'on a défini qu'est-ce qui est moralement correct, qu'est-ce qui est moralement pas correct. Là, aujourd'hui, autour de la table, notons, je pense qu'on est une majorité à se dire, moralement, il faut un système dont la pérennité ne met pas en danger les conditions même de survie de l'humanité et des écosystèmes. Notons, tu sais, on a ce pan-là sur lequel on pourrait s'entendre. Puis on pourrait s'entendre sur dire qu'il faudrait un système dont la production, surtout la distribution de cette production-là, soit plus juste, c'est-à-dire qu'il crée beaucoup moins d'inégalités, qu'il soit le plus égalitaire possible en termes de répartition de qui a quoi. À partir du moment où on se dit ça, la question là, de, tiens, notons... C'est quoi notre relation avec la nature non humaine, finalement? Puis c'est quoi notre degré d'interrelation avec cette nature non humaine-là? C'est quoi notre position dans le respect de droits qu'on leur créerait, finalement? Là? Moi, je pense que c'est une question politique ouverte qui se débat d'ailleurs beaucoup mieux dans un système qui serait démocratique versus un système dans lequel les décisions sont prises par une minorité. Je ne sais pas si vous me suivez.
Excusez-moi. Parce que nous,
ici,
on entend rien.
OK, je vais essayer de parler plus fort.
Tout le monde à faire preuve d'un peu de voix, parce que nous, on est comme des losers. on n'entend
rien. Je m'excuse.
Fait que même, vous déplacez, vous adressez, juste mettre de l'autre bord. Si c'est possible, parce que là...
Ben, en fait, je vais parler droit comme ça. Je vais parler comme ça. Comme ça, ça devrait être pas pire. All right. Je vais mettre mon ordi de même, comme ça, je vais pouvoir le regarder. All right. Fait que là, moi, récemment, là, juste vous dire, moi, je suis papa de jumeaux depuis 7 mois, en fait. Mes jumeaux sont nés juste un peu après qu'on avait fini de lire d'écrire le livre. Mais il y a quand même un petit bout, fait que ça faisait un petit bout que j'avais pas comme réouvert le livre. Puis toutes les discussions collectives sur quelle présentation on donne, je les ai comme un peu sautées parce que j'étais trop occupé à comme changer les couches et les biberons. Puis là, récemment, j'ai réouvert le titre du cours. Puis là, j'ai vu que ça s'appelait « Comment s'organiser pour dépasser le capitalisme ». J'ai fait comme « Oh boy, c'est une grosse question, ça. Oh boy, c'est une grosse question. C'est une grosse question, vous voyez?
Oui, je m'excuse, mais vous parlez qu'il faut que ça passe par la démocratie, mais sans souligner que ça passe également par une décolonisation de l'imaginaire. Parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, en effet, comme elle l'a mentionné, qu'on va décider en tant que société qu'on arrête de consommer. Il faut aussi repenser la manière qu'on éduque les générations en vue d'être en mesure de repenser la société.
Non seulement ça, mais il faut convaincre une majorité de monde qu'il faudrait changer cette société-là. Puis, dans le processus, il faut se battre contre une élite qui ne voudra pas. Fait que, tu sais, on n'a pas... On a une grosse tâche devant nous. Puis c'est une grosse question parce que, tu sais, essentiellement, c'est une question que des gens se sont posées depuis que le capitalisme existe. Puis il existe toutes sortes de tendances anarchistes, communistes, socialistes, name it, qui se sont posées ces questions-là puis qui ont un ensemble de réponses. Puis là, moi, je suis devant vous puis je suis comme, tu sais, ah ouais, moi, j'ai la réponse, tu sais. Puis un truc qui va être transversal à toute ma présentation, c'est pas compliqué, c'est que je suis quelqu'un de quand même assez modeste. Je pense sérieusement que j'ai pas tant de réponses que ça sur ces enjeux-là. En général, tant pour la proposition de ce qui va s'en venir, donc par quoi on remplace le capitalisme, on a un principe de base que je trouve bon, la planification démocratique, en principe c'est intéressant. Ceci dit, il faut admettre notre propre méconnaissance collective sur qu'est-ce que ça implique concrètement, puis le fait qu'il va y avoir de l'expérimentation dans le processus pour se rendre jusque-là, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis, probablement que, admettons qu'on arrive à quelque part là, autour de cette idée-là, probablement que cette chose-là qui va arriver, ça sera pas la grande utopie dans laquelle, tu sais, tout le monde va bien, puis qu'il n'y a plus de misère, puis tout, là. Ça va probablement être quelque chose de mieux, quelque chose qui répond mieux, qui s'inscrit mieux dans les limites de la production planétaire, qui est plus démocratique, qui est plus juste. Mais, tu sais, l'idée que du jour au lendemain, par une expérience de pensée, on pourrait construire un système parfait qu'on pourrait faire advenir, puis qui serait comme, tu sais, le point final de l'histoire, moi, c'est quelque chose auquel je crois pas. Puis pour la même raison, il y a tellement eu d'expériences puis d'essais dans l'histoire sur comment justement renverser le capitalisme. Il y a eu des expériences qu'on pourrait qualifier de succès dans ce processus révolutionnaire, mais d'échec dans le résultat. D'autres qu'on pourrait dire que le processus révolutionnaire était un échec, mais que le résultat aurait été meilleur s'il avait marché. Il y en a toutes sortes d'exemples dans l'histoire. Puis il faut être relativement modeste au sens où chacune de ces expériences-là a lieu dans des contextes différents, des contextes qui sont parfois difficiles, que c'est facile de juger ces expériences-là a posteriori, mais que si on était dedans, probablement qu'on serait aussi pogné avec les mêmes dilemmes que les personnes historiquement l'ont été à l'époque. Puis on est dans un contexte qui est radicalement différent aujourd'hui. Puis il faut penser que chacune des innovations sociales, chaque fois que l'humanité est arrivée à des nouvelles étapes, a inventé des nouveaux systèmes, on a inventé des choses qui n'existaient pas. Fait que nécessairement, on est dans une situation dans laquelle il faut inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Il faut se dire que c'est possible de le faire, d'autres l'ont fait avant. Le défi est difficile, puis on va se planter, puis on va faire des erreurs dans le processus. Donc, petite mise en garde sur le comment qu'on le fait. Ceci dit, on peut faire un petit panorama là, des questions classiques. Là, puis je pense que ça vaut la peine de les poser. Il y a la fameuse affaire, t'sais, réforme versus révolution. T'sais. Puis dans le milieu des gens, dans réforme contre révolution. Dans le milieu des gens de la gauche radicale, c'est vraiment un classique de se traiter de réformiste comme une genre d'insulte, de dire, t'sais, toi, clairement, tes principes sont pas assez cool. Puis la question de la révolution est souvent quelque chose qui fait peur, parce que spontanément, quand quelqu'un parle de révolution, on parle à des gens avec des guns qui s'attaquent, admettons, à l'Assemblée nationale, qui prend le pouvoir puis qui déclare la République socialiste du Québec. Ceci dit, quand on parle de révolution, ce qu'on parle réellement, c'est de changement en profondeur du système. Le processus pour se rendre jusqu'à là pourrait théoriquement être quelque chose qui n'implique pas comme une lutte armée, par exemple. Ceci dit, il faut se rappeler que si tu t'attaques au fondement du pouvoir de la classe la plus puissante de la planète, ces gens-là risquent de riposter. Puis ça donne qu'en général, ils contrôlent l'État qui a des bonnes armées pour s'arranger de garder le pouvoir. Fait que cette question-là, elle se pose dans le processus. Ceci dit, on n'est pas proche de quelque chose comme un processus révolutionnaire dans lequel il suffirait qu'on s'achète des armes puis on pourrait prendre le pouvoir puis ça serait fini. T'sais. On n'est pas dans un contexte qui ressemble à ça du tout. Fait que la question est un petit peu abstraite au sens où même les gens qui se disent les plus révolutionnaires aujourd'hui puis qui pensent qu'il va falloir faire la lutte armée, finalement, tu les retrouves dans la manif ou avec les CPE à dire qu'il faut des meilleurs salaires, tu sais. Parce que ces gens-là reconnaissent bien qu'à court terme, ben finalement, tu sais, il faut organiser des mouvements sociaux, il faut gagner des réformes à court terme, puis c'est ce genre de choses-là qu'il faut. La différence fondamentale, finalement, est surtout entre la perspective de est-ce que sur le long terme, on pense qu'il faut un changement radical du système, ou est-ce qu'on pense qu'on peut aménager le capitalisme puis qu'avec seulement des aménagements, on va être correct, t'sais. Elle a la distinction. Mais à partir du moment où on sait que éventuellement, il faut remplacer ce système-là par quelque chose d'autre si on veut avoir quelque chose qui soit, périn pour la planète, il faut réfléchir à un moment donné, il va falloir faire une rupture, il va falloir faire un moment de bascule. Ceci dit, avant d'être rendu là, puis là on va y revenir plus tard, il faut convaincre pas mal de monde d'être d'accord avec nous. On peut pas juste être une petite gang de crinqués puis penser qu'on peut y arriver.
Pas mal de monde, c'est pas juste dans notre pays. Là,
non, c'est à l'international. Il y a toute la question de géopolitique. T'sais, si demain matin. Mais d'une part, si juste le Québec, on changerait de système, blablabla, probablement qu'on serait pas aimé à l'international. T'sais, je vous donne un exemple vraiment classique. Là. En Haïti, fin du 18e siècle, les esclaves font une rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pays coloniaux de l'époque? Ils ont isolé Haïti économiquement parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre qu'un régime contrôlé par d'anciens esclaves prospère. T'sais. Puis effectivement, ils ont maintenu Haïti dans la misère pendant 150 ans. Plus que ça, mais ce que je veux dire, c'est... Admettons, la France avait acculé... En tout cas, on va partir pas là-dessus. L'autre débat classique, c'est, tu sais, est-ce qu'il faut, tu sais, mettons dans le processus révolutionnaire, mettons qu'on arrive là, est-ce qu'on prend l'État, est-ce qu'on prend le contrôle de l'État, ou est-ce qu'il faut détruire l'État? ça, c'est un autre débat classique qui comme, traverse l'ensemble de la littérature sur cette question-là. Je ne vais pas vous amener une réponse comme toute faite à ce stade-ci. Je vais vous dire, c'est ce genre de question qui dépend en fait du contexte. Puis quand on parle de destruction de l'État, en réalité, ce qu'on parle souvent, ou les processus révolutionnaires réels dans lesquels on peut dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui ressemblait à ça, c'est des processus dans lesquels un mouvement social profitait d'un vide, ou du moins créait un vide en conquérant des espaces, finalement, ou en ralliant du monde qui pouvait s'organiser dans quelque chose qui n'était pas tant un non-État qu'un État parallèle, finalement. Là. Souvent, tu sais, des communautés qui pouvaient être autant autogérées qu'on voudrait, là, mais qui, quand même, se construisaient leurs propres règles, leurs propres milices, etc., puis qui contrôlaient un territoire qui était parallèle à un État existant. Un exemple relativement récent qu'on pourrait voir, admettons que vous allez regarder le Rojava, là, l'État kurde qui s'est mis en place pendant la guerre syrienne, là, c'est un bon exemple d'un processus qui ressemble à ça. Ils se sont fait une constitution, puis là, ils ont conquéré du territoire, puis éventuellement, ils ont essayé de s'auto-gouverner en période de guerre. Là, honnêtement, je ne sais plus trop où est-ce que c'est rendu avec tout ça, mais c'est généralement, quand on parle de ce genre de trucs-là, c'est le genre de trucs-là qui se passe. La question de la prise de l'État, à l'inverse, ce serait plus de dire soit on élit un gouvernement qui ferait la transition, mettons, puis là on espère qu'avec cette élection-là, bien, ce gouvernement-là, il prend le contrôle de l'État, puis là il peut utiliser ses leviers pour d'autres fins que le statu quo pour lequel il était utilisé jusqu'à date. Ou on imagine justement la gang armée là, avec les guns là, qui prennent le contrôle de l'État en tassant le régime qui est là, puis là qui continue la même chose. Le débat classique, à savoir, c'est est-ce que l'État, vu qu'il est encastré dans une société capitaliste, est fondamentalement capitaliste et donc irréformable, ou est-ce qu'on peut utiliser la volonté démocratique en prenant le contrôle pour le transformer? On va répondre à ça beaucoup plus tard dans la présentation, si je m'y rends. Je vais juste regarder les calards, là, pour... Okay, donc. Puis finalement, la troisième question, genre, qui traverse pas mal les débats, c'est quoi la forme optimale d'organisation des gens qui veulent s'organiser pour, tu sais, changer le système? Puis là, je peux vous demander la contribution, là, c'est assez facile à trouver, là. C'est quoi les genres d'organisations dans lesquelles les gens se sont impliqués historiquement en pensant que ces organisations-là, éventuellement, pourraient transformer la société?
Étudier
en sciences politiques. Non, c'est une activité. T'sais. Je parle d'une organisation dans laquelle tu t'impliques, la forme de l'organisation. Un syndicat.
Un parti.
Un
OSBL.
Les communs.
Ben, c'est ça. En général, c'est pas mal les trois formes, c'est-à-dire une organisation révolutionnaire ou un parti dans lequel tu as un groupe de gens qui partagent un programme commun puis qui s'imaginent qu'en faisant ben de la propagande, en recrutant du monde, éventuellement, ils vont devenir assez forts pour prendre le contrôle de l'État. L'autre tendance classique, très présente, admettons, avec les anarcho-syndicalistes, c'est de dire, on va faire des syndicats, puis là, notre syndicat, il va devenir de plus en plus fort, puis là, à un moment donné, il va organiser une grève générale, ça va paralyser la société. Puis là, quand la société va être complètement paralysée, d'une part, les capitalistes n'auront plus leur base de pouvoir, parce que les capitalistes ont leur pouvoir tant qu'on travaille, fait que si on ne travaille plus, ils n'en ont plus. Puis là, on va partir de ça pour fonder la société nouvelle. Puis l'autre idée assez classique, c'est de dire, on va se partir soit des communes, soit des organisations économiques alternatives, une économie sociale qui va vider le capitalisme par en dessous, finalement. Alors, on va se mettre avec notre économie parallèle, puis au fur et à mesure qu'elle va croître, les gens vont voir que c'est vraiment plus cool de vivre de même, puis là, ils vont vouloir vivre de même, puis là, éventuellement, il n'y a plus personne qui va participer dans le système capitaliste parce que tout le monde va finalement travailler dans ces affaires-là, puis là, on va vider par en dessous, puis là, pouf, on va être dans une société différente.
Il n'y aurait pas un quatrième, comme les colonnes solides, l'effondrement, puis...
Ben, ça, c'est pas vraiment une stratégie d'organisation.
Non.
C'est pas vraiment une stratégie d'organisation. C'est, puis, ben non, mais c'est pas juste les collapsologues, là, au sens où, tu sais, il y a aussi une tendance, admettons, parmi les communistes, de se dire le capitalisme va finir par couler sous la contradiction finale. Fait que là, nous, on s'organise en partie, mais notre partie, son rôle, c'est d'attendre la crise finale. Là, quand la crise arrive, on y va. Là, les gens, ils vont nous suivre parce qu'on est prêts. Là, je parle de tout ça avec grande ironie. Dans les faits, on n'a pas beaucoup d'autres choix que ces stratégies-là. Puis il n'y en a aucune qu'on peut dire qui était une grande victoire, au sens où le capitalisme existe encore. mon point avec ça, puis je vais y revenir plus tard, c'est que dans les faits, en fait, il y a une certaine complémentarité entre ces différentes stratégies-là. Puis qu'il faut se garder quelque chose comme une flexibilité tactique. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le contexte qui va s'en venir, tu sais, à moyen ou à long terme. Puis c'est une de ces trois stratégies-là, ou des combinaisons de ces stratégies-là, peuvent devenir les meilleures stratégies dans un contexte donné ou être des mauvaises stratégies dans un autre contexte. Puis, ultimement, les différentes formes d'organisation autour de ces trucs-là ont des forces et des faiblesses qu'on va revenir un petit peu plus tard. Mais la perspective générale là, que je veux vous apporter, puis c'est celle qu'on décrit dans le livre, c'est-à-dire, ultimement, là, peu importe laquelle de ces trois stratégies qu'on utilise ou dans lesquelles on est impliqué au quotidien, dans chacun des cas, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force qui détermine qu'est-ce qu'on est capable d'obtenir à court terme, c'est-à-dire à court terme ou à moyen terme, quand on obtient des réformes, la qualité de ces réformes-là, c'est une question de rapport de force, notre capacité à s'organiser collectivement et à forcer l'État ou la classe capitaliste à donner des affaires qui ont du bon sens. Puis à long terme, quand on approche d'un moment de rupture, d'un moment dans lequel le système comme a une crise ou quelque chose du genre, puis que c'est possible de penser le changer, c'est un moment de rapport de force. D'une part, la capacité collective à faire advenir un changement. Puis ensuite, s'il y a un effondrement ou une rupture ou quelque chose du genre, notre capacité collective à s'assurer que ce qui vient après l'effondrement ou le remplacement d'un État capitaliste puis du système capitaliste, ça soit quelque chose qui correspond à nos valeurs. Au sens où, puis là, je vous donne un exemple. Si les collapsologues ont raison, puis qu'il y a un effondrement qui s'en vient, mais qu'on n'est pas organisé, puis qu'on n'a pas un bon rapport de force pour lutter pour quelque chose qui serait plus juste, plus égalitaire, plus démocratique, plus écologique, c'est possible que les gens qui ont déjà les guns, puis les gens qui contrôlent déjà la plupart des organisations les plus fortes de la planète, les utilisent pour que ce qui advienne après, ce soit quelque chose qui continue à les avantager, tu sais. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe où est-ce qu'on se rend le long de cette route-là, il faut collectivement devenir de plus en plus fort. Que le camp qui soit en faveur d'une justice sociale, d'une économie, puis d'une organisation sociale qui respecte les limites de la planète, il faut que ce camp-là soit de plus en plus fort, soit capable de confronter des adversaires qui veulent aller en direction inverse ou qui veulent garder leurs privilèges puis leur puissance. Ouais?
Dans ce cas-là, on vient pas de perdre une grande opportunité avec la crise de la COVID?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, que ça a clairement ébranlé plusieurs structures du capitalisme et des États-nations comme ils s'organisent actuellement. Et pourtant, les gens ne se sont pas mobilisés malgré que ça se soit dit entre les gens que c'était une occasion de repenser à la manière de fonctionner l'économie pendant que celle-ci était majoritairement arrêtée. Pourtant, on n'a pas agi.
Et je te dirais que c'est plutôt représentatif de notre faiblesse relative, en fait. Parce qu'effectivement, admettons qu'on serait beaucoup, beaucoup plus fort qu'on l'est en ce moment, probablement qu'on aurait réussi à percer ou à utiliser cette crise-là pour obtenir des choses substantiellement. T'sais, je pense pas que la crise de la COVID aurait été l'ouverture pour une brèche révolutionnaire ou quelque chose du genre, mais t'sais, c'est effectivement t'sais, juste la... En fait, on peut observer juste le fait que la crise de la COVID ait ébranlé les systèmes d'approvisionnement à l'international, a fait que même nos élites locales ont commencé à dire « Ouais, il faudrait qu'on se localise un petit peu plus. » Ça me semble que ce serait pratique, ça sécuriserait nos profits puis tout. Mais tu sais, tu peux utiliser cette branche-là, puis les pénuries qui en ressortent pour dire à la population, par exemple, effectivement, ça devrait être local, mais ça devrait être contrôlé par les travailleurs, travailleuses elles-mêmes, par les communautés, blablabla. Puis, toute cette mondialisation-là, elle a été créée à la base à cause de l'avarice de ces entreprises-là qui voulaient faire plus de profit en allant ailleurs. T'sais. Ceci dit, effectivement, on a pas eu le haut du pavé. Ceci dit, c'était difficile. Là, on s'entend, c'était difficile pour tout le monde, la COVID. Puis on a eu de la misère à s'organiser et à répondre efficacement, mais c'est entre autres à cause de notre faiblesse relative. OK. Donc, une fois qu'on a dit ça, concrètement, on fait quoi? Là, je vous ai dit, tu sais, c'est une question d'analyse de rapport de force. Puis il faut réaliser que ceux contre qui on est, dont le cœur de ça, c'est la classe capitaliste en tant que telle, qui va pas comme juste nous donner raison à un moment donné, parce que la source de leur position sociale, de leur valorisation, de leur propre identité, de ce qu'ils valorisent, puis de la continuité de leur capacité d'action sur le monde, parce que tu sais, eux, ils se voient comme, tu sais, mettons, là, on prend Bill Gates, là. Bill Gates, là, il a comme pris plein de son argent, puis il l'a mis dans une grande fondation qui permet de sauver plein d'impôts, mais aussi qui permet à lui de faire ce qu'il pense qui est bien pour la planète, tu sais, il veut pas pour le monde, pour les gens, tu sais. Mais ça, c'est du pouvoir social privé qui détermine de façon privée par un seul individu qu'est-ce qui politiquement devrait être fait. Cet argent-là, si à la place aurait été contrôlé par la communauté, bien, c'est les communautés qui auraient décidé elles-mêmes de ce serait quoi qui serait charitable ou une bonne idée de faire avec cet argent-là. Fait que peu importe à quel point ils sont méchants ou pas, à quel point ils donnent des choses à la fondation, le but de tout ça, ou le cœur de tout ça, c'est que Bill Gates, lui, il pense qu'il fait vraiment la bonne chose. Oui, oui. Il pense que sauve plein de gens en faisant. Mais oui, moi, je suis pas mal.
Les vaccins, en fait, ils empêchent les autres pays à pouvoir reproduire le vaccin avec les brevets. Puis, en fait, tout son argent aujourd'hui est basé sur les brevets qu'il empêche tout le monde.
Oui, mais.
Tu sais, il faut
que tu les mettes dans leur propre logique. Tu sais.
Ouais, ouais.
Si le système de brevets n'existait pas, il n'y aurait pas d'incitatif à l'innovation qui a permis de créer ces brevets-là aussi rapidement. C'est leur mindset, tu sais. Fait qu'eux, ils vont se battre jusqu'à la mort là, pour garder ce système-là, parce qu'ils vont se dire, si on détruit ça, le vaccin n'aurait jamais été inventé. Dans une économie planifiée démocratiquement, il n'y a personne qui se serait forcé le cul pour inventer le vaccin, parce que personne ne pouvait faire de profit. Mais tu sais, faut juste dire, ils sont moralement convaincus de leur supériorité. Puis ils vont se battre.
Comment ça serait produit quand même, la création du vaccin?
Mais, de un, c'est aucun de ces grands actionnaires-là ou de ces patrons d'entreprise qui le crée le vaccin. C'est du monde dans les labos qui font de la recherche. Puis ce monde-là, ça donne que même dans des universités où personne ne fait d'argent parce qu'ils créent comme, tu sais, une nouvelle invention ou un vaccin ou n'importe quoi dans l'université en faisant un brevet public ou whatever, ils créent quand même la bidule. Puis ultimement, tu sais, mettons dans le cas des vaccins sur la COVID, on s'entend que pour être certain que les entreprises capitalistes mettent le maximum de leur énergie, l'État leur a garanti comme des achats massifs, puis leur a devancé du cash puis tout pour être sûr qu'ils le fassent. T'sais. Fait que l'État aurait pu faire la même chose avec juste comme des labos comme publics, etc. Puis on serait probablement arrivé au même résultat, au sens où l'intelligence de ces l'intelligence des techniciens de laboratoire, des PhD en biochimie et compagnie n'auraient pas moins été là, puis ces gens-là n'auraient pas été moins motivés à faire quelque chose que, ultimement, eux, ils font. C'est leur job, puis parce qu'ils croient.
Une infrastructure, il faut des éprouvettes en grand nombre, il faut des centrifugeuses, il faut des installations, ça coûte une fortune en équipement, l'intelligence dans les airs.
Je suis pas mal sûr qu'on serait capable de construire ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, je veux pas en passer un débat là-dessus. C'était pas le point que je voulais actuellement. Mon point, c'est de dire la classe capitaliste est convaincue de sa supériorité morale, puis ils vont tout faire pour garder leur route. On peut pas lutter directement sur leur terrain, au sens où on n'a pas comme plein de capitaux derrière nous qui peut juste compétitionner de l'achat de pubs ou la création de journaux puis de médias de masse aussi puissants que les leurs. On n'a pas plein d'argent pour faire du lobbying comme eux. On n'a pas une armée capable de confronter un État. T'sais, on peut pas se battre sur le même terrain que la classe capitaliste. Donc la lutte est forcément asymétrique, au sens où c'est comme une guerre non conventionnelle, finalement. Là. C'est comme une guérilla qui se bat contre une armée régulière. La guérilla peut finir par gagner, mais jamais en utilisant exactement les mêmes tactiques. Il faut qu'elle utilise des tactiques différentes. Nous, on a des ressources qui sont différentes des leurs. Les ressources qu'on a, c'est avant tout le fait qu'il y a une majorité de la population qui aurait intérêt à une économie démocratiquement planifiée, parce que cette majorité-là de la population est actuellement dépossédée du contrôle sur son avenir, parce qu'on est comme des consommateurs, des travailleurs isolés, blablabla. On n'a pas de réel contrôle sur notre avenir. Donc, notre hypothèse, c'est-à-dire le projet pourrait rejoindre une majorité de gens. Puis, ultimement, tu sais, politiquement, ce qui fait que qu'on est capable d'aller dans une direction ou dans une autre socialement, c'est qu'il y a du travail humain, tu sais. En ce moment, le travail humain est comme passif, là, si on veut. Là. La classe capitaliste elle contrôle une bonne partie de son travail humain dans les entreprises qu'elle contrôle. Puis l'État a son travail humain qui fait l'ensemble des choses nécessaires pour la reproduction du statu quo, essentiellement. Nous, si on convainc assez de monde, l'hypothèse, c'est de dire qu'il y a bien du monde qui vont devoir donner gratuitement du temps. Finalement, on va s'impliquer, on va militer, on va donner du temps de façon bénévole pour un changement de société. Puis, si on convainc suffisamment de monde, on a une force du nombre. On a bien des gens qui pourraient être motivés, qui pourraient produire un travail humain substantiel pour aller dans une autre direction. Puis, on a la capacité de faire la grève. Donc, un peu ce que j'avais dit. Si on retire notre force de travail des institutions qui reproduisent le système, on est capable de paralyser ce système-là pendant une courte période de temps ou pendant une longue période de temps, selon notre degré. Dans tout le processus, le bout qui nous bloque, c'est comment qu'on convainc vraiment beaucoup de gens d'entreprendre des actions collectives risquées sur des longues périodes pour un changement social. Donc là, on arrive à un argument principal, un argument important. Puis là, je vais vous demander un petit peu. Puis là, c'est la question de comment qu'on convainc les gens. Puis là, des fois, ça nous désespère un petit peu, ça. C'est comme, qu'est-ce qu'ils sont tapons? Qu'est-ce qu'ils sont moutons? Genre, ils nous écoutent pas. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, je vous pose une question, là. Qui ici est-ce qui est convaincu que le réchauffement climatique existe et est causé par les émissions de carbone des êtres humains? À tout le monde. OK. All right, tout le monde. Bon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi vous êtes convaincu de ça?
Je me fie à...
Parle fort pour les gens derrière.
Je me fie au consensus scientifique.
OK.
Ouais.
Où est-ce que tu as trouvé ce consensus scientifique-là?
Les rapports du GIEC, des scientifiques qui viennent directement des universités, qui viennent à l'UPOP et qui nous racontent ce qu'ils ont fait.
Les académiciens.
OK.
La co-op 20.
Ouais.
Ben, plus prosaïquement, parce que la nature recule partout. C'est très visible, les atteintes à l'environnement. Ça
ne
prend pas la tête à la
question. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre source spécifique? C'est comme.
C'est les médias.
Les scientifiques.
Mais tu dis les scientifiques. Mais combien de scientifiques tu as lu?
Le consensus.
Mais quand on lit, par exemple, je ne sais pas moi, la revue Sciences Humaines qui nous raconte, c'est des gens qui ont fait des recherches qui se basent sur des protocoles, puis des trucs qui viennent de d'autres revues, c'est d'autres recherches scientifiques, tout ça. Donc, en fait, on fait confiance à cette espèce de d'univers-là de la revue scientifique. Dans le...
Bingo! On fait confiance. Vous avez fait confiance à des gens qui ont dit, comme mettons, 99% des scientifiques disent ça, blablabla. Vous avez fait confiance à des rapports médias, vous avez fait confiance à un article scientifique que vous avez lu, qui référait à d'autres articles scientifiques. Vous avez fait confiance que sa méthode était bonne, que les données sur lesquelles il se basait étaient bonnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a essayé d'aller contre-vérifier une étude scientifique qu'il a lue pour aller voir les données, admettons? Une personne en arrière, pas bien. Deux. Non, mais je parle là-dessus, par exemple. Pas n'importe laquelle, là-dessus. OK, c'est bon. Une personne.
Faire cette vérification-là,
je dis pas que je la prends. Je dis qu'effectivement, personne n'a les moyens de faire ça. Les scientifiques eux-mêmes n'ont pas les moyens de tout faire ça. Les scientifiques eux-mêmes doivent faire confiance à d'autres scientifiques puis se concentrer sur leur champ. Oui, c'est pas tous les scientifiques qui peuvent refaire l'ensemble de recherche des autres.
Non, ils en font une partie, puis ils les mettent en commun à des niveaux progressivement plus grands.
Ben, c'est ça.
Et puis, il y a une interaction, puis une vérification latérale. Si quelqu'un publie quelque chose, les autres peuvent mettre la dépense et le confirmer. Fait que tu as un étage de confiance qui se crée.
Confiance.
Je suis d'accord, mais c'est ça, c'est basé sur des relations de confiance. Il y a un ensemble de relations de confiance. Mais en tout cas, dans tous les cas, oui.
Pas forcément, je veux dire, le scientifique.
La confiance, c'est plus.
les scientifiques entre eux sont en concurrence, donc ils ne se privent pas de faire des critiques l'un sur l'autre. Donc, je pense que ce que dit monsieur, c'est valable. C'est-à-dire qu'il finit par se faire un accord tacite, pas de, comme ça en matière de science, mais ce processus, la vérification des bibliographies, tout ça, etc., bon, c'est quelque chose que je fais dans d'autres domaines, je veux dire, c'est effectivement la bonne pratique. Mais c'est énervant, ça prend beaucoup de temps. Tout le monde ne le fait pas spécialement, mais je pense que dans le milieu scientifique, les gens le font. Donc, après, si ça correspond aussi à ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, il y a un réchauffement qui est beaucoup trop rapide par rapport au réchauffement précédent qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, on a quand même tous un cerveau dans la tête, on n'est pas d'analyser ça.
Je
suis
d'accord avec vous, Bill.
Voilà. C'est pas aberrant de penser que les gens, ils ont dans leur bon sens raison. Mais tout en n'ayant pas été jusqu'au fond d'analyse scientifique, en tout cas,
je suis d'accord avec vous.
Beaucoup plus profondément que les dirigeants politiques.
Moi je ne m'obstine pas là-dessus. Ce que je veux juste révéler, c'est qu'à vraiment un niveau très très profond, là, on ne peut pas tout revérifier tout le temps. On est obligé de se faire confiance dans qu'est-ce qu'une croyance valide. Nous, on partage un critère. On partage le critère qui dit. Ce qui suit la méthode scientifique a un haut degré de validité. Puis on se dit, effectivement, tout ce qu'on est capable de lire, ce qu'on est capable de percevoir sur le consensus scientifique, c'est qu'effectivement, ça nous mène à la conclusion qu'il y a un réchauffement climatique causé par l'être humain, principalement par les émissions de carbone. T'sais, on partage ça. Ceci dit, là où je veux en venir, puis sur la question de la croyance, c'est que on a un ensemble d'autres croyances qui ne sont pas nécessairement basées sur des affaires scientifiques parce qu'on n'a pas le temps de lire des études scientifiques sur l'ensemble de nos activités humaines. Il y a plein de choses qu'on fait juste par mimétisme ou parce qu'on l'a appris de même et qu'on a continué à le faire de même. Ou sinon, il y a des enjeux sur lesquels la science ne s'entend pas. Sur ces affaires-là, on va lire... Tiens, mettons, le jeune papa, là, je lis des affaires sur l'éducation des enfants, tout dit tout et son contraire. C'est impossible de trouver quelque chose et de faire comme « Ah oui, il a sûrement raison. » À un moment donné, t'es comme « Ah, je feel que cette méthode-là est peut-être pas bonne, moi, y aller avec l'autre. » Mais comme, ou bien c'est « Ah ouais, mon ami m'a dit que c'était vraiment bon, je vais y aller avec ça. » Mais tu sais, comme, t'sais, comment tu fais confiance pour décider comment t'éduques ton enfant? Puis ultimement, puis des fois, t'es comme « Ah ouais, lui, il a vraiment raté son éducation, je vais essayer de pas faire comme ça. » Mais tu sais, c'est pas facile de prendre ces décisions-là, mais il faut les prendre, puis ça se base sur des relations de confiance. Puis ça continue comme ça sur un ensemble de domaines de la vie puis de décisions qu'on prend. Puis ultimement, ce qu'il faut réfléchir la façon dont les idées circulent sur la base de réseaux de confiance puis de ce qu'on pourrait appeler de communautés épistémiques, c'est-à-dire de communautés de gens qui partagent un ensemble de critères sur quels sont les genres d'affirmations, les genres de sources qu'ils considèrent valides, etc. Fait que des fois, il y a des gens qu'on va rencontrer, qu'on va trouver complètement cave parce que, comme, tu sais, clairement, on leur parle puis, tu sais, ils sont en désaccord avec nous, puis là, ils nous citent des sources qu'on fait comme « mon Dieu », comme « ils croient à ça ». Puis là, avec la COVID, on a vu, avec notamment les théories du complot, que ça pouvait se pénétrer assez profondément, toutes sortes de choses qu'on voit. Mais c'est que ces choses-là circulent au sein de communautés épistémiques, donc un ensemble de gens qui partagent des sources, des valeurs, etc., qui vont se bâtir une identité autour de ces croyances-là, etc., qui les rend... qui fait que quand on leur donne un argument qui est scientifique, admettons, ou qui est basé sur ces affaires-là, pour eux, c'est pas une source de validité, c'est pas un critère qu'ils vont faire confiance comme étant quelque chose de valide. Il y avait une question.
Oui, ben c'est plus un commentaire, c'est aussi souvent ces personnes-là, ça va être des gens qui, en fait, vont avoir un discours pseudo-scientifique beaucoup plus élaboré que le nôtre. Par exemple, les platistes qui, eux, vont avoir été vraiment lire pourquoi la Terre est plate, mais nous, on n'a jamais vraiment été lire pourquoi la Terre est ronde de manière scientifique. On est juste comme, ben, ronde parce qu'on sait qu'elle est ronde, puis là, eux, ils vont tous avoir un discours scientifique englobant ça, puis là, t'as de la difficulté à combattre ces arguments-là également, parce que dans le fond, tu ne connais pas tant que ça.
Ben c'est ça, puis des fois on s'imagine qu'on convainc des gens avec des vraiment bons arguments. Mais je trouve que tu donnes un vraiment bon exemple. Des fois, on va se faire confronter avec des arguments vraiment meilleurs que les nôtres. Mais on ne sera pas convaincu. On ne sera pas convaincu parce que nous, on se dit, Moi, toute ma gang, ils pensent comme ça. Les critères me semblent vraiment bons. Je suis pas mal sûr que quelqu'un d'autre de ma gang serait capable de répondre à cette personne-là. T'sais. Moi, je suis pas capable, mais comme. Cette autre personne-là, lui, je fais vraiment plus confiance. Puis comme, il l'avait l'affaire. Là, quand il m'a parlé, là, il me semble que c'était mieux, mais je suis pas capable de répondre. T'sais. Ouais.
Moi, en regardant un documentaire de Louis T. Sur les anti-vaccins, j'ai fini par comprendre que ceux qui sont les plus complotistes et qui renversent la relation de confiance à l'égard des autorités scientifiques. Pour eux, quand tu es une autorité scientifique, ben donc tu es dans la gang d'engamique, fait que là tu deviens encore complètement non, t'es corrompu. Fait que plus t'es scientifique, plus t'es proche de je sais pas moi, des chercheurs, des universitaires, des choses comme ça, mais là t'es corrompu, donc t'es pas fiable. Fait que c'est pour ça que les autres, ils rejettent tout ce qui est, ben pas nécessairement 100%, mais dès que tu dis oui, mais il y a telle étude qui est sortie, mais telle, ils vont rejeter ça en bloc parce qu'eux, ils vont se fier, c'est pour ça qu'ils se fient au gars dans son sous-sol, qui n'a aucune autorité, qui n'a aucun lien, aucun diplôme, mais ils font encore plus confiance parce qu'ils n'ont aucun diplôme. Parce que diplôme égale corruption pour eux. Quand j'ai catché ça, là, j'ai catché plein d'affaires hein, cette journée-là.
mais là, je vais vous inverser votre perspective. Parce que là, on parle de quelque chose, tu sais, on parle de notre moral high ground puis des changements climatiques. Puis là, on regarde ceux qui y croient pas. Puis comme, tu sais, c'est comme une minorité duquel on peut un peu rire. Ils sont vraiment calmes, ils n'ont pas lu les études. T'sais. Mais là, mettons, là, nous, on dit le capitalisme est structurellement incompatible avec l'environnement. On pense qu'il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Là, c'est nous, les bozos.
Ouais. On est les bons.
Parce que là, tous les économistes avec des prix Nobel qui ont étudié dans toutes les grandes universités, ils disent non, vous avez pas raison, pantoute, vous êtes complètement dans le tort. Puis là, nous, on fait le même processus à l'inverse. On fait comme, ah ouais, t'es associé à comme Friedman, toi? Nosticave, tu sais. On fait le même processus.
Ouais, mais il y a 200 ans de théorie quand même socialiste, anarchiste sur lequel c'est basé. Tu sais, je veux dire, t'as des grands penseurs, t'as les Bakunin, puis les l'écologie sociale de Putin. Puis je veux dire, c'est pas juste genre un dos dans son sol, là, c'est du monde. En tout cas, bref, je vais juste dire, entre le dos dans son sol et 200 ans de théorie, il y a une nuance à avoir.
Je fais pas une équivalence parfaite. Je fais pas une équivalence parfaite. Mais, admettons, pour. T'sais, la personne lambda que tu vas croiser dans oui. la rue, mettons, puis à qui tu parles, ça se peut qu'ils te perçoivent de la même façon. Puis, on a une côte à remonter en termes de comment est-ce qu'on peut faire pour faire switcher la confiance vers l'économie mainstream, admettons, ben de l'économie mainstream, vers comme cette pensée alternative-là. Même si, tu sais, ultimement, genre, on n'a pas juste inventé ça dans le sol, puis effectivement, il y a des études qu'on pourrait qualifier de scientifiques qui ont comme démontré un ensemble de choses qui sont en lien avec ça. On a une côte à remonter. Puis les gens qu'on va aller voir, pour la même raison que j'ai dit de départ, on peut pas leur dire, tu sais, lis, c'est comme 10 000 pages de théorie qui démontrent que j'ai raison, comme, tu sais, ils peuvent pas comme s'embarquer dans le débat. Puis là, ils vont lire comme, tu sais, ils vont essayer de comparer comme économie néoclassique, économie néo-keynésienne, économie marxiste. Puis là, après ça, ils vont pouvoir nous dire, ah ouais, vous aviez raison. Tu sais, c'est comme... Une question?
Oui.
Vas-y.
En fait, c'est ça, mais on parle bon, de laboratoires, de scientifiques et tout, tu sais, puis on parlait de peer review tantôt, tu sais, de vérification, de... Mais il reste que même en psychologie, même en science, il y a vraiment des paradigmes, il y a des biais qui sont là, des biais cognitifs qui font en sorte qu'il y a comme certaines interprétations des faits qui vont aller dans une direction très, très encadrée. Puis, tu sais, les recherches, qu'est-ce qui se fait subventionner par l'État, qu'est-ce qui... Tu sais, je veux dire, tout ça n'est pas complètement... Moi, en fait, je pense que c'est ça que je trouve difficile. C'est l'idée, je pense que même en 2012, à un moment donné, il était question de dire « Ouais, mais là, ceux qui payent les universités pour faire la recherche, ben dans le fond, ils sont en train de diriger les recherches vers ce qu'ils veulent prouver, etc., etc. » Je ne sais pas si je suis vraiment claire, mais l'idée, c'est que, c'est ça, il y a Moi, toi aussi, tu voulais ajouter quelque chose de tantôt.
Non, je rigole parce que c'est ma job de faire des contrats de recherche. Avec c'est ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, on n'est pas ça. Ça peut
rire, mais vas-y. Non, mais, tu sais, c'est très, très encadré, c'est très dirigé, tu sais, puis c'est comme difficile à un moment donné. Même si c'est comme scientifique et supposément très, très
objectif,
oui, merci, il y a quand même certaines directions, certaines subventions qui vont vers, tu sais, qui vont vers des conclusions, tu sais, puis... En tout cas, j'ai...
La science, c'est pas forcément moral, là. Je veux dire, les consommateurs, je veux dire, il y a plein de scientifiques qui sont d'horribles personnes, qui ont des visées. Non, mais c'est vrai, je veux dire,
mais c'est sûr
le tout à la science aussi.
Dès qu'on arrive en sciences sociales, c'est évident que... il y a une incertitude, il y a un niveau d'incertitude sur notre capacité à dire des choses vraies, au sens où, tu sais, on dit des choses relativement vraies, mais à quel point elles sont plus vraies que telle autre théorie, il y a quand même un terrain qu'on pourrait dire boueteux dans le processus, puis ultimement, ce qui fait que tu tombes dans un camp ou dans l'autre est beaucoup en lien avec tes a priori, ta position sociale, ou le financement que tu as reçu pour aller dans une direction ou dans une autre, tu sais.
Mais c'est plus compliqué que ça. Je pense pas qu'il y a seulement deux camps. Il y a aussi des gens qui se situent entre les deux, puis qui comprennent les deux, mais ils réussissent pas à trancher. Puis il y a du monde aussi qui sont simplement qui nous croient, mais qui sont désabusés, qui veulent pas intervenir, ou des gens qui ont peur même qu'on a raison, puis qui les poussent à rien faire. Mais eux autres aussi pour les convaincre.
Oui, en fait là, tu sais, là, je suis pas arrivé à qui qu'il faut convaincre, puis comment qu'on les convainc exactement. Mon point, c'est de dire. Il y a un principe qui est en lien avec la centralité de la confiance, puis ultimement, notre capacité à faire rayonner nos idées, finalement, puis de convaincre un grand nombre de gens, c'est notre capacité à utiliser ces liens de confiance-là, bâtir des liens de confiance avec des gens, mais aussi identifier dans des communautés qui est-ce qui est au centre de liens de confiance. Puis là, il y a toute une... Tu sais, moi, je m'inspire de toute une littérature qui vient... du syndicalisme, dans lequel, tiens, mettons, là, c'est un problème vraiment concret, vraiment simple. Là. Comment tu fais pour convaincre, tu sais, 67 personnes dans une usine de joindre ton syndicat, de signer tes cartes syndicales puis de confronter leur boss? Ce monde-là, à la base, ils ont peur. Ils ont peur de se faire envoyer, ils ont peur des. Juste après. Ils ont peur de se faire. De recevoir des réprimandes, etc. Ils savent qu'ultimement, là, en fait, une partie pense que ça va être préférable pour eux, d'autres sont indécis, d'autres sont carrément hostiles parce que les boss les aiment bien, puis tout. Puis toi, tu es de l'extérieur, comment tu fais pour convaincre ce monde-là de joindre ton syndicat? Ben, les tactiques qui ont été développées, puis c'est des trucs qui ont été utilisés dans le milieu syndical depuis les années 20, depuis les années 30, c'est souvent d'identifier les leaders dans le communauté de travail. Leader, pas au sens de personnes qui sont plus importantes que les autres, pas au sens de gens qui ont plus d'initiatives ou qui parlent plus fort. Leader au sens de personnes que les autres personnes font confiance. Le genre de personnes que, si cette personne-là a dit « Oui, il faut signer pour le syndicat », les autres vont faire comme... Ils vont au moins écouter ses arguments. Ils vont faire « Ah oui, ils vont être comme réceptifs. » Tandis que si c'est moi qui débarque, qui ne connaissent pas, on va faire comme « T'es qui toi? » genre. Comme, tu sais, je te connais pas, tu fais pas partie de ma communauté, etc. Puis, ultimement, admettons, quand tu fais une cartographie d'un lieu comme ça, tu regardes, c'est quoi les réseaux de confiance? C'est pas tout le monde qui va faire confiance aux mêmes personnes. Il va y avoir des gens qui vont être comme, tu sais, admettons, je sais pas moi, un classique, là, tu vas avoir une communauté d'Haïtiens puis d'Haïtiennes dans une place de travail, ces gens-là vont se tenir ensemble, ils vont pas nécessairement faire confiance aux mêmes gens que... les Blancs québécois qui sont là depuis longtemps ou que la gang de Latinos qui sont dans l'usine. T'sais, souvent, il va y avoir ces trucs-là. Oui, sinon, il va y avoir des fois, tu sais, mettons, la gang de gens qui font un pool de hockey puis qui se rencontrent au bar à tous les jeudis soirs. Ben, ces gens-là vont se tenir ensemble, etc. Ils vont se tisser un réseau. Puis, il va y avoir des gens qui vont être au centre de ce réseau-là. Ben, dans le processus, admettons, de syndicalisation de cette usine-là, ben, tu vas identifier les différents réseaux, les différentes communautés, tu vas identifier c'est qui est au centre, puis tu vas mettre tes énergies sur ces gens-là. Tu vas essayer de convaincre ces gens-là, puis en général, si tu arrives à les convaincre, ils vont ramener tout le groupe, ils vont les convaincre de signer leur carte, ils vont devenir syndiqués, puis là, ils vont faire une lutte glorieuse contre leur patron. Ce principe-là est relativement simple. Il est basé sur le même concept là, de centralité de la confiance, finalement, là, dans le processus. Puis on peut l'imaginer tant au niveau très, très local qu'à des niveaux très, très macro. au sens où on peut imaginer la société québécoise comme un ensemble de groupes, de communautés enchevêtrées finalement, avec des réseaux de confiance plus ou moins complexes, avec des paliers là, finalement. Là. Puis tu peux y aller groupe par groupe, communauté par communauté, ou avec des figures plus élevées qui peuvent essayer, que tu peux comme... c'est un classique, puis là, ça se passe moins au Québec. Mais aux États-Unis, un truc classique là, dans lequel tu as une campagne communautaire dans un quartier. Souvent, aux États-Unis, les communautés religieuses sont plus importantes. Bien, si tu arrives à convaincre le pasteur d'une communauté de dire un bon mot dans ton truc, bien là, déjà, tu as un réseau de confiance que tu mobilises à cet endroit-là. T'sais. Mais des réseaux de confiance, là, il y en a toutes sortes de sortes. Ça peut être la personne qui organise les matchs de soccer dans un truc auquel tout le monde parle, etc. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Je vais faire mon point. Je peux prendre ta question.
Je veux dire, au niveau de la confiance, est-ce qu'il joue en notre faveur si on est à gauche et discrédité de partout? C'est la prégnance des catastrophes écologiques. Là, c'est clair qu'il y a quand même une brèche ici. Là, quand tu regardes ce qui se passe en Colombie-Britannique, il y a quand même une perte d'évidence qui est de plus en plus difficile à buter.
Ça fait un excellent lien avec mon deuxième point. Si la confiance est centrale dans le processus d'acquisition des idées, il y a un autre enjeu qui est central, puis c'est l'expérience pratique. En fait, une des affaires que... là, je n'élaborerai pas trop sur comme l'ontologie autour de ça, là, mais tu sais, une bonne partie de ce qu'on connaît ou de ce qu'on fait est à un niveau beaucoup plus pratique que discursif. Tu sais, souvent dans le quotidien, la façon qu'on vit, etc. Puis des fois, accepter une idée juste, tu sais, au niveau du discours, c'est pas nécessairement qu'on change nos pratiques, tu sais. Puis il y a une matérialité au niveau de la pratique, de notre relation avec le monde, qui fait que des fois, on se fait dire quelque chose, on peut se dire « Ah oui, ça a du sens », mais on le comprend juste quand on est confronté comme à la chose réelle. Puis là, t'as comme l'éclair de génie, tu sais, « Ah, c'est ça qu'il voulait dire ». Je sais pas si... T'sais, là, j'ai pas d'exemple concret, là, mais c'est que plus au niveau du feeling, mais en tout cas, moi, ça m'arrivait souvent là, d'avoir de connaître quelque chose en principe, puis de juste le réaliser quand, comme, la question se posait pratiquement dans une tâche que je devais faire ou quelque chose du genre, puis là, comme...
Genre, quand ton sous-sol de bungalow est inondé, tu dis,
c'est exact, parce que dans l'histoire du trou d'ozone, par exemple, les scientifiques étaient au courant déjà bien avant, c'est-à-dire qu'ils raisonnent sur un autre domaine, c'est que pour eux, des chiffres et puis des analyses, ça leur suffit. Bon, il y a eu une décennie entre le moment où les scientifiques étaient au courant du problème du trou d'ozone, jusqu'à ce qu'on ait des images satellites qui montrent le trou d'ozone lui-même. Ouais. Ça pouvait être aussi manipulation, hein, c'était des fausses images. Hein. Mais à partir du moment où il y a eu des images, là, les hommes politiques se sont manifestés. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un niveau de confiance différent et des supports de confiance différents entre des scientifiques et puis ce qui finit par sortir au bout de 10 ou 15 ans de débat dans le milieu scientifique. Voilà.
Non, mais je pense en dehors du monde scientifique, quand on parle de personnes de confiance, parce que ça m'a fait penser, c'est à Greta. La jeune qui se promène justement, puisque les gens faisaient toujours penser qu'ils vont. Moi, je ne sais pas si ça correspondait un petit peu à ce qu'on parlait de.
Mais quelqu'un comme Greta Thunberg, là, c'est un cas spécifique. Parce que, des fois, on imagine, t'sais, sans des mythes dans le livre, là, mais t'sais, pour que notre mouvement pogne, il nous faut un leader charismatique. Il faut quelqu'un là, qui va soulever les masses. T'sais. Mais socialement, là, quand on regarde la plupart des mouvements sociaux, la façon qu'ils s'organisent, etc., c'est rare que le leader charismatique est une variable explicative si forte que ça en tant que tel. Un phénomène comme Greta Thunberg, c'est souvent, comme la plupart des gens qu'on a vus comme des leaders charismatiques, c'est souvent des symboles. C'est-à-dire que c'est du monde, ils existent, ils ont certaines qualités, un ensemble de raisons pour lesquelles les gens peuvent leur faire confiance plus spontanément, etc. Mais ultimement, le mouvement, il repose sur des dizaines de milliers de personnes qui font du travail en arrière, des leaders locaux à plein de places qui convainquent leurs amis, leurs collègues, etc. Puis le leader a l'air puissant et charismatique parce que ça donne qu'il est devant le stage au moment où se matérialise le travail de ces dizaines de milliers d'autres personnes-là, qui fait survenir la foule d'un demi-million de personnes, puis t'es comme, ah ouais, Greta a amené tout ce monde-là, tu sais. Mais dans les faits, c'est comme plein de gens qui travaillent en arrière, puis ça donne que Greta est un symbole dans le processus, puis un cue, tu sais, la personne importante, ça donne qu'elle est là, fait que ça serait important qu'on y aille parce que ça réarrivera pas, tu sais, ce genre de choses-là.
C'est comme Martin Luther King, il y a eu tout un mouvement de libération des Noirs avant que lui advienne, fasse ses discours, puis etc. C'est juste que lui, il avait un talent d'orateur particulier qui faisait qu'il convainquait davantage de gens.
Mais à lui tout seul, tu peux pas expliquer ce qui se passe. Même chose, hein, mettons, des fois, on regarde les chefs de partis politiques, puis des fois, ils ont un genre d'aura. T'es comme, oh shit, cette personne-là, c'est le sauveur, ça va arriver là. Puis à partir du moment où le mouvement s'effrite, là, finalement, cette personne-là, elle vaut plus rien. T'sais, mettons, au Québec, là, on regardait Gilles Duceppe, là, quand il vidait le bloc, puis que le bloc allait bien. Il y avait comme une espèce d'aura, là. T'imaginais que Gilles Duceppe était une personne super charismatique, tout le monde. Quand le bloc s'est effondré, puis que, comme il est tombé dans la déchéance, lui, soudainement, c'est un nobody, tu sais. Ses qualités d'orateur n'ont pas changé. Le mouvement qui est derrière, puis l'aura qui s'est créée a changé. Je sais pas si vous voyez un peu la métaphore, l'objet que je...
Mais parlant d'homme politique et d'aura, et de comment vous expliquez le succès de... Comment il s'appelle? Trump.
Qui?
Trump. Comment vous l'expliquez, ils sont arrivés au pouvoir?
Mais tu sais, ultimement, là, ben en tout cas, là, je vais m'écarter un petit peu. Là. Mais tu sais,
il y a 40% d'Américains qui ont voté pour lui.
Eh oui,
c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est justement, c'est le leader n'est pas un facteur si important. Le leader, au sens de la figure charismatique à la tête, n'est pas un facteur si important que ça dans un processus de mouvement social. Quelqu'un comme Trump, ultimement, a une machine de guerre, d'argent, d'intérêt derrière, de propagande, etc. Il n'est pas tout seul dans le processus. Puis après ça, tu sais, le choix de la personne que tu mets, bien, effectivement, la base sociale qui vote pour Trump est quelqu'un qui n'était pas particulièrement dérangé par le fait que ses discours étaient aussi incohérents, tu sais. En fait, tu sais, il y a beaucoup de whistleblowing là, dans Trump, là, c'est-à-dire qu'il va dire quelque chose, mais on regarde, tu sais, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a rien dit, mais la personne qui l'écoute avec un background différent va faire comme, ah ouais, il vient de dire que les immigrants, c'est des tatas, puis qu'on devrait les crisser dehors. Tu sais, comme, ça sonne, puis là, comme, ça correspond.
Là, vous avez, je sais pas combien de millions de personnes qui votent pour lui. T'sais, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là pour apporter votre théorie puis les convaincre? C'est ça, je veux dire.
Okay.
C'est ça que j'essaie de...
J'arrive, tu sais, comme, d'une part, la question de la confiance, fait que ça veut dire que, tu sais, non, mais c'est ça, c'est que il faut faire switcher la confiance de ce monde-là vers un autre truc. Puis ça se fait, c'est communauté par communauté, place par place. Et je vous donne un exemple, là. Mettons, Virginie-Occidentale, un État qui vote pour Trump à l'os, républicain, compagnie. Là, j'ai oublié la date. En tout cas, après l'élection de Trump, les profs des écoles primaires et secondaires ont décidé de faire une grève illégale qui a duré plusieurs semaines contre le gouverneur de l'État, quelque chose qui s'était pas passé depuis vraiment longtemps, sans support de leur syndicat, parce qu'ils étaient vraiment pistes de leurs conditions, parce qu'ils étaient vraiment fâchés des coupes à leur... c'était les assurances. Il y avait des grosses augmentations de leur assurance qui bouffaient quasiment toute leur augmentation de salaire qu'il n'y avait quasiment pas de toute façon. T'sais. Puis ils se sont organisés, puis ils ont utilisé différentes techniques d'identification de leader, etc. Puis il y a le bout sur l'expérience que je voulais dire, c'est qu'il y a une expérience pratique vécue qui, à un certain moment, malgré comme l'espèce de carcan dans lequel, puis l'espèce d'ambiance sociale qu'il y a à cet endroit-là, mais ces gens-là en avaient juste assez puis ont décidé de prendre en main finalement leur avenir, puis faire ce genre de truc-là, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on a un avantage, c'est-à-dire qu'effectivement, même si la classe capitaliste a plus de ressources que nous pour engager du monde, pour travailler des liens de confiance, pour donner de l'argent, tu sais, là, c'est un classique, là, mais tu sais, quand tu contrôles les groupes communautaires qui donnent des services à quelque part, tu peux les orienter idéologiquement en ta faveur. Quand c'est toi qui contrôles l'argent, etc., tu peux comme manipuler ces processus-là puis les liens de confiance informels qui se font. Quand tu contrôles les médias, tu es capable de sélectionner tes chroniqueurs pour ceux qui font toujours des chroniques dans ta faveur puis de ton sens, puis qui trouvent que toute remise en question profonde du système serait complètement folle. Puis ces gens-là, ben, les gens les lisent, puis il y a des liens de confiance avec le temps qui nationalisme, etc. Ceci dit, il y a une limite dans la capacité de manipuler par en haut l'idéologie. Cette limite-là, c'est l'expérience pratique, d'une part, de l'expérience de l'exploitation, l'expérience de la difficulté de l'aliénation dans le monde dans lequel on est, puis, de façon de plus en plus claire, l'expérience des catastrophes naturelles qui se multiplient, puis de l'urgence de faire quelque chose par rapport à ça. C'est un bruit de fond qui est dissonant par rapport à l'idéologie libérale dans laquelle le capitalisme va répondre à tous les problèmes, puis est basé sur une société juste dans laquelle, finalement, c'est les plus méritants qui deviennent riches parce que, comme... les gens achètent leurs innovations et blablabla.
Il y a aussi le fait qu'il y a eu 26 cas, puis ça avance à pas de tortue, puis là, on voit que là, c'est la Californie brûle, la Colombie-Britannique brûle, ça n'a pas de mesure, tu sais, je veux dire, ça avance à pas de tortue, puis les changements, c'est ça. Fait, à un moment donné, il y a un décalage tellement grand que ça convainc les gens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
Mais, puis, finalement, troisième point que je veux faire, donc, centralité de la confiance, il y a la question de l'expérience pratique, puis il y a la question du fait que les croyances ont différents degrés d'intégration à l'identité d'une personne. Puis les croyances qui vont être fortement intégrées à leur identité vont être beaucoup plus difficiles à remettre en question que quelque chose qui est relativement périphérique. Ça, il faut le comprendre pour savoir que on ne va pas amener quelqu'un de relativement naïf, intégré au système, etc., à devenir des révolutionnaires anticapitalistes du jour au lendemain, juste parce que, comme, je sais pas moi, leur oncle préféré leur dit, puis qu'ils ont vu comme une catastrophe naturelle dans leur salle. Ça prend un peu de temps avant que les gens commencent par remettre en question des croyances périphériques, puis leur croyance comme finalement fondamentale, comme c'est quelque chose qui correspond, qui est ancré dans leur identité finalement, c'est plus difficile de le faire changer sans créer une réaction émotionnelle. T'sais. Puis là, je peux vous donner un exemple. Si demain matin, là, quelqu'un viendrait vous dire, quelqu'un que vous faites vraiment confiance, là, quelqu'un qui est super solide scientifiquement, il n'y aurait aucune raison de vous mentir, il vient vous dire, hey, j'ai lu ça, là. Puis en fait, les émissions carbone, là, il empêche le réchauffement climatique. C'est le soleil qui se réchauffe. Puis il faut faire plus de carbone. On est en train de lutter dans la mauvaise direction. On va tuer la planète là, si on gagne, en fait. Je sais que c'est farfelu. Je sais, mais la personne est vraiment bonne scientifiquement. Puis tout, là, vous dit ça, là. Spontanément, vous allez shutdowner cette information-là. Vous allez dire, tu sais, cette personne-là est folle, là, elle a viré sur le capot. Parce que accepter cette proposition-là viendrait vider de sens toute la lutte que vous avez faite depuis plusieurs années. T'sais. Ben, dites-vous qu'une personne très militante du côté adverse pense pareil. Fait qu'effectivement, on va commencer par aller chercher des gens qui sont plus mitoyens, c'est évident. Même si les gens qui militent du côté adverse, des fois, sont des gens comme nous, qui ont comme tombé par hasard dans une communauté épistémique fort différente, qui ont calcifié finalement des croyances fondamentalement opposé aux nôtres, puis qu'il y aurait avantage à nous rejoindre éventuellement dans le processus, puis qu'on espère pouvoir les rejoindre, mais ça va être difficile de les rejoindre d'un coup. Puis ceux qui sont entre les deux, ben, faut les faire bouger coche par coche, si on veut, là, étape par étape. Ouais.
J'avais entendu, mais là, donc, je n'ai pas de base scientifique pour dire d'où ça vient, mais j'avais entendu aussi que, historiquement, les changements sociaux ne seraient pas nécessairement venus de majorité. Parce que tout à l'heure, tu disais, ah, on ne pourra pas changer en petit groupe d'enragés. Puis en fait, je me dis, mais peut-être que oui, dans le sens où des fois, je me dis, si on attend 50% plus 1, d'abord, ça m'apparaît énorme. Mais aussi, il me semble que certains changements sociaux, je pense au droit de vote des femmes, par exemple, c'est pas 50% plus 1 qu'il a fallu pour que ça advienne. Ça a pris, je sais pas, 10-15% de gens vraiment enragés qui sont dans la rue, puis qui refusent, puis qui vont, puis qui cherchent. Je sais pas si ça, c'est calculé, calculable.
Ben là, j'ai oublié la référence, parce que ça fait 7 mois que je pense juste à changer des couches. Puis j'ai pas relu ma thèse, parce qu'il y a un bout dans ma thèse qui traite ça, mais il y a un auteur qui a relativement récemment là, sorti des livres, puis une statistique qui disait qu'elle avait fait une analyse comparative de plein de mouvements sociaux, puis elle disait que à 3,5% de la population fortement engagée dans une lutte, en général, c'est suffisant pour arriver à un changement important.
3,5?
Hein?
Moi, j'avais
vu 6. Ben, c'est ça. Ben, elle, elle avait fait le truc, puis elle est arrivée à 3,5.
Wow.
Elle avait à 3,5.
Mais ça aussi, t'encourages, ça?
Oui, oui, c'est encourageant.
Parce que 50 plus 1, c'est...
c'est
déprimant.
Dans tous les... Ben, c'est ça, ça. Dans tous les cas, le... L'affaire, c'est que cette donnée-là, elle ne dit pas c'est quel genre de gens, puis le type de changement qu'elle évalue. Le type de changement qu'elle évalue, c'est des choses comme, par exemple, tu sais, une dictature qui devient une démocratie, par exemple. Tu sais, combien de gens ça a fallu de mobiliser pour ça. Puis un ensemble de facteurs au sens où, mettons, si tu commences à avoir des désaffectations dans l'armée, par exemple, t'as pas besoin de tant de monde que ça pour que là, comme, tu sais, ton état devient franchement plus fragile, tu sais. En tout cas, dans tous les cas, c'est un chiffre qui peut nous sembler encourageant, gardons-le en tête. Donc, anyway, on n'a pas besoin de savoir exactement c'est quoi la cible, tu sais. Éventuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on convainc plus de monde, puis effectivement, tu sais, le... Je vais arriver plus tard sur où est-ce qu'on travaille, mais admettons qu'on fait une analyse, là, qu'on cartographie le Québec, puis qu'on dit c'est qui le monde, là, que, admettons qu'eux feraient la grève, ça ne fesserait pas en tabarnak. Mais tu peux imaginer, admettons, tout le secteur de la logistique, tu sais. Tu peux imaginer, admettons, si tu arrives à paralyser les ports, les aéroports, le transport ferroviaire.
On l'a vu avec les autochtones, avec les Wet'suwet'en,
l'année dernière. Ben, c'est ça, admettons. Tu dis, ouh, ça fait mal, tu sais. Puis là, t'as pas besoin de tant de monde que ça parce qu'ils sont dans un choke point. Même, tu sais, là, je parle background syndicaliste, là. Quand tu planifies des moyens de pression, t'essaies de trouver tes choke points dans ton milieu de travail parce que tu dis, si ces gens-là agissent ou si ces gens-là sont convaincus, ils peuvent vraiment faire mal au boss pour un minimum d'effort, finalement. Mais c'est le même principe, là. Quand on cherche une mobilisation sociale, etc., bien, on peut chercher ces mêmes choke points-là.
Les adversaires n'ont pas aussi besoin de juste 3,5%.
Hein?
Les adversaires
n'ont
pas besoin de juste
3,5%. Les adversaires n'ont rien besoin de faire. Les adversaires,
dans l'idée que nous, on réussirait à amener quelque chose avec 3,5%, les adversaires
pourraient
ramener ce qu'il y avait avant avec
3,5%.
C'est ce que Martino
et Bocoté
font.
C'est sûr que ultimement, à partir du moment que tu es en lutte, ben, tu sais, t'as au moins deux côtés, des fois plus. Puis dans tous les mouvements de changement social d'envergure, quand t'as un mouvement révolutionnaire, t'as en général un mouvement contre-révolutionnaire. Faut que tu te fasses avec. Là.
Avez-vous comme plusieurs exemples de croyances qui seraient centrales, primordiales versus périphériques?
Ben tiens, mettons. On va prendre une personne ordinaire, là. La personne est une petite famille, les deux ont des jobs de classe moyenne, hein, je sais pas moi, une prof au primaire, puis un travailleur de la construction, ils vivent à Boisbriand dans un bungalow, ils ont deux enfants, ils ont un chien. Fondamentalement, puis ils vont les deux en voiture à leur travail. Ce qui va être le cœur probablement de leur identité, puis là, je fais une hypothèse, mais ce qui va être le cœur probablement de leur identité, c'est probablement quelque chose comme la stabilité de leur cellule familiale, leur capacité à s'acheter leur plaisir puis leur loisir, etc. Puis, ils vont probablement avoir des croyances sur, tu sais, je me suis acheté ma maison, puis là, je me suis acheté mes REER qui sont dans des fonds gérés, blablabla. Puis là, tu sais, si je vis ma vie puis je fais mes affaires, je vais pouvoir voir mes enfants grandir, ça va bien aller. Puis là, je vais pouvoir prendre ma retraite, tout va bien aller. Puis leur identité est construite autour de cette volonté de construire son unité familiale, de faire ses affaires, notamment parce que, essentiellement, c'est ce que les gens contrôlent, tu sais. La volonté de changer la société, etc., même si beaucoup de gens vont rêver de ça quand ils vont être jeunes, ils vont éventuellement abandonner en disant comme « Ah, fuck, c'est trop difficile » ou l'idée d'avoir un grand succès, etc. Les gens vont se buter au fait que ben, dans la réalité, il y a peu d'élus, puis ils vont se rabattre sur ce qu'ils peuvent contrôler, ils vont bâtir leur identité autour de ça. Après ça, pour ces personnes-là, mettons que tu essaies de leur convaincre que, je sais pas moi, la taxe carbone, c'est une bonne chose, puis qu'eux, ils pensent que c'est une mauvaise chose. Mais ça n'a pas un si gros impact sur leur vie, tu sais. Ultimement, tu vas peut-être leur convaincre que, tu sais, voter pour un parti politique qui propose la taxe carbone va coûter un petit peu plus cher à la pompe, mais c'est pas la fin du monde. Mais là, si tu essaies de les convaincre que le mode de vie dans des bungalows unifamiliales est intenable, puis il va falloir comme augmenter la densité urbaine, il va falloir probablement qu'ils déménagent en ville avec pas de terrain ou qu'ils prennent le transport en commun pour aller à leur job. Là, comme, tu sais, t'as tout leur imaginaire. Puis là, si t'essaies de leur dire que s'ils s'engagent pas dans la lutte climatique, leur fonds de retraite, ça ne servira absolument à rien parce que l'économie va vraiment pas bien aller, il va y avoir de l'inflation sur les prix, etc. Puis la belle retraite qu'ils s'imaginent, ça va plutôt être essayer de prendre sa retraite dans un monde qui va avoir de plus en plus de difficultés à s'occuper de ses êtres humains parce que, comme, tu sais, un ensemble de désastres climatiques va accaparer les budgets de l'État et compagnie, puis leurs enfants vont vivre dans une société qui va être franchement dystopique, admettons. Mais là, c'est quelque chose comme difficile à accepter, tu sais, ça l'impliquerait de révisiter complètement leur mode de vie. Fait spontanément, ils vont te shutter out, là. Ceci dit, là, là, j'ai pris bois bouillant, mais je sais pas s'il y a une rivière à ce moment-là, j'en ai aucune idée, en fait. Mais admettons que, je sais pas moi, les changements climatiques provoquent des tornades dans leur coin. Là, peut-être que l'expérience de ça va causer des remises en question. Là, ils vont se mobiliser peut-être avec leur communauté pour aider leurs voisins à se reconstruire. Dans le processus, c'est une communauté qui se tient. Puis là, peut-être qu'on est là, peut-être qu'il y a des gens de notre gang qui aident avec des brigades là, pour comme reconstruire les affaires. On apprend à connaître les gens, là, on leur discute. Puis là, on les amène un petit peu plus loin. Comme moi, hein? Ah ouais, c'est les changements climatiques qui ont fait ça. Hein? Ouais, ça va arriver de plus en plus souvent. Puis là, comme, tu sais, je sais pas, c'est-tu clair? C'est-tu ça un bon exemple?
Ah oui, ouais, c'est ça. Ben, là, ce que j'ai retenu, c'est les choses qui trigger la peur, vraiment de l'insécurité, de survie là, du cerveau reptilien, l'exclusion, puis l'invalidation aussi de sa personne, ce qui ne devrait pas arriver dans un mode de vie démocratique où on essaie d'intégrer tout le monde. Fait que c'est peut-être plus une approche de discours.
Ben, y a une approche de discours, puis il y a des conditions dans lesquelles ça peut se faire. Mais tu sais, effectivement, t'sais, on cogne à sa porte, puis on a un beau discours mielleux qui finit par d'ailleurs, c'est ça, il va falloir déménager, puis ce mode de vie-là est complètement incompatible avec la planète, blablabla. C'est sûr que ça va se bloquer, tu sais. Mais si tu vas un petit peu par petit peu, que ça s'intègre avec, dans une communauté dans laquelle il y a des gens qui leur font confiance, etc., puis que, tu sais, admettons, je sais pas moi, un peu plus tard, il y a comme un projet de juste, tu sais, il y a un débat, en fait, là, entre est-ce qu'on construit un truc de transport en commun qui pourrait faciliter les affaires-là ou est-ce qu'on élargit l'autoroute à cet endroit-là? Peut-être que là, avec les liens, qu'on peut les amener vers, tu sais, lutter pour que ce soit plutôt le transport en commun qui soit développé plutôt que l'élargissement de l'autoroute, puis qu'eux se fassent le petit step de, tu sais, ah ouais, effectivement, peut-être que ce serait moins chiant d'être pogné dans le trafic puis de plutôt aller prendre ce nouveau transport en commun-là qui va avoir lieu, puis d'accepter cette modification-là dans leur mode de vie. Puis là, à travers la lutte dans le processus, là, c'est un bout que j'ai pas encore eu le temps de dire, mais dans un processus de lutte, c'est-à-dire quand tu engages quelqu'un dans une lutte relativement simple, c'est le processus de participer, d'une part, au débat, au processus décisionnel, aux actions qui peuvent avoir lieu, tu sais, des actions simples au départ qui peuvent se complexifier avec le temps. C'est un processus dans lequel qui fait cheminer les gens aussi. Il y avait une question en arrière.
Ben, j'allais juste dire que ça va être plus facile de convaincre les gens de Bois-Brillant de passer d'auto-essence à auto-électrique plutôt que vers le transport en commun. Oh, ouais. Ça va être plus facile de les convaincre de passer de deux à une auto que, encore une fois, leur dire ben, déménage en ville. Il y a des choses qui sont peut-être plus réalistes. Puis là, on va se faire taxer d'être réformiste, mais à un moment donné, des fois, il y a une limite à ce qu'on peut demander comme sacrifice immédiat aux gens, parce que sinon, ils vont juste rien faire.
Fait oui, bien, j'essayais d'illustrer le niveau de sacrifice qui ferait que ça perturberait leur identité, non, si on veut. Mais effectivement, tu sais, c'est un autre qu'on reprend les trois principes que j'ai. Tu sais, il y a la centralité de la confiance pour aller chercher le monde, il y a l'expérience pratique qui, en elle-même, peut être transformatrice. L'expérience pratique, soit, tu sais, du désastre, tout ça, mais aussi l'expérience pratique d'une lutte collective, l'expérience pratique de s'engager dans quelque chose peut être transformateur. Puis le fait que, tu sais, il faut penser que les gens vont bouger étape par étape. Ces étapes-là peuvent se succéder rapidement, au sens où, quand je regarde mon expérience de la grève étudiante de 2012, par exemple, les gens bougent très, très rapidement quand ils sont dans une lutte très intense. Puis au départ, ils peuvent s'être engagés sur une base relativement, tu sais, « Ah oui, je pense que ça va être relativement cool. » Puis juste penser, juste voter, puis faire le party à tous les jours en disant que les classes n'ont pas lieu, puis c'est cool. Puis là, éventuellement, ils s'engagent dans le truc. Puis là, ils finissent comme avec des bâtons, puis un bouclier, puis des lunettes, puis là, ils se battent contre les policiers, tu sais. Le processus existe. Mais non, mais des fois,
sur
ça prend...
Semaines,
non, mais... Ben, c'est ça peut se faire relativement rapidement. Ça peut prendre plus de temps, mais les gens le font étape par étape quand même.
Est-ce que ce serait pertinent de parler de la fenêtre d'Overton, du concept d'amener finalement ces concepts qui étaient le droit des femmes qui était il y a 200 ans, on n'en parlait pas, puis qu'aujourd'hui, ça soit complètement accepté de la société?
Oui, ben c'est ça. L'imaginaire de ce qui est possible change avec le temps, ouais, de ce qui est socialement acceptable finalement. Puis juste, en tout cas, si on regarde. L'histoire de la gauche au Québec. On peut voir, entre autres, quelque chose comme dans les années 70, une fenêtre des possibles beaucoup plus ouverte que dans les années 90, où elle se rétrécit beaucoup. Puis une réouverture de cette fenêtre-là depuis 25 ans, avec essentiellement un travail patient de reconstruction de la combativité syndicale, reconstruction d'un mouvement étudiant combatif, émergence, consolidation d'un parti politique capable de mettre dans le discours public comme des idées plus à gauche, construction de quelque chose comme un think tank, comme l'IRIS, par exemple, qui a pu faire comme un travail de crédibilisation, finalement, de pensées différentes, etc. T'sais. Ouais.
Mais c'est beau de vouloir aborder tranquillement, pas vite, les gens, par exemple, vers une transition qui respecte les capacités de la planète. Mais c'est juste que si là, on rentre dans un capitalisme vert où tout le monde s'achète des chars électriques pour supposément régler le problème, je veux dire, ça, c'est juste une solution donnée par les capitalistes eux-mêmes pour faire à croire qu'ils font des efforts vers une transition. Mais dans le fond, si tout le monde s'achète des chars électriques à place de commencer à prendre les transports en commun, ben, on empire le problème.
Bien, ça donne la question de la priorisation. Tu sais, à quoi qu'on donne la priorité? Parce que finalement, il y a plein de gens qui font plein d'affaires. Tu sais. Puis là, la question, c'est qu'est-ce qui nous permet de convaincre le plus de gens le plus rapidement possible?
De la bonne affaire.
Mais c'est ça. D'être le plus loin possible dans notre perspective de, tu sais, de changement social, le système, etc. Tu sais. Puis effectivement... Il y a la question macro-stratégique, mais il y a la question de, tu sais, toi, nous autres, là, tu sais, chaque individu, là, qu'est-ce qu'on fait spécifiquement? Puis la raison pour laquelle il n'y a pas comme une réponse at large, c'est qu'on est souvent plus efficace dans notre propre milieu. La raison pour laquelle on est plus efficace dans notre propre milieu, c'est la même raison pour laquelle, tu sais, la question des liens de confiance, etc. C'est que dans notre milieu... Puis notre milieu, c'est soit... ça peut être notre milieu de travail, ça peut être notre quartier, ça peut être comme le milieu des parents puis des profs de l'école où vont nos enfants. T'sais, on peut imaginer... on appartient à plusieurs milieux, finalement, mais ces milieux-là, c'est des milieux dans lesquels on a des connexions directes, dans lesquels on peut s'impliquer. Bien, ces milieux-là, on les connaît mieux. On connaît les gens qui sont là. On connaît on peut apprendre plus facilement à connaître c'est quoi les différents liens de confiance qui sont dans ces affaires-là. Et il y a toujours quelque chose à faire dans un milieu. Tous les milieux ne sont pas aussi prioritaires les uns que les autres, mais ultimement, comme on est plus efficace à l'endroit où on est, bien, on commence par cet endroit-là. Puis, comme on ne peut pas tout faire, puis des fois, moi, ça m'arrive vraiment souvent, là, tu te rassembles avec un groupe, là, t'es comme, ah ouais, il faut vraiment changer le système, on est comme, par où qu'on commence? Là, on est comme, la logistique, tu sais. Clairement, si on paraît, la logistique, c'est bon, mais on connaît personne en logistique, on connaît personne qui travaille au port de Montréal, tu sais. Puis là, tu te dis, je vais imprimer des tracts, puis je vais les distribuer aux débardeurs. Puis là, tu te dis, au débardeur, puis là, il distribue dans le face, il trouve vraiment comique, là, t'es comme, c'est qui cette personne-là? Puis effectivement, tu n'as aucun impact, tu sais. Fait qu'il y a l'imaginaire de où est-ce qu'on pense qu'on est prioritaire, puis il y a notre capacité de où est-ce qu'on est situé, c'est quoi nos alliés, c'est quoi nos forces. Puis on n'est pas tous bons dans exactement la même affaire, tu sais. Puis ultimement, dans le processus de, tu sais, dans une organisation, dans un processus de transition, puis de lutte dans notre milieu, bien là, c'est de trouver des alliés, voir dans quoi qu'on est bon. Puis c'est pas tout le monde, tu sais, mettons, je parle d'identifier les leaders, par exemple. C'est possible que vous n'êtes pas des leaders. C'est possible que vous, les gens, ne vous fassent pas confiance. C'est pas grave. C'est pas tout le monde qui est dans une situation dans laquelle les gens font confiance. Mais si vous êtes armé de cette compréhension-là de comment les choses fonctionnent, etc., vous êtes capable d'imaginer un plan, puis là, de parler de ce plan-là avec d'autres gens. Là, vous allez trouver quelqu'un dans le processus qui va être meilleur que vous pour aller parler à d'autres gens. Moi, je ne suis pas si bon que ça pour, tu sais, genre... Je suis pas pire pour parler en public, là, mais je suis pas bon pour, comme, tu sais, convaincre une personne, faire des trucs. C'est pas mon fort, tu sais. Je sais que c'est pas là-dedans que je suis, puis c'est pas grave, tu sais. Là, je m'égare un petit peu, puis je suis parti complètement en dehors de mon plan. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Est-ce que ça vous dérange si, comme, on continue comme ça, puis qu'éventuellement, j'arrive à ma conclusion, puis que la période de questions, on l'a juste intégré dans
le processus? La question, ce serait plus, est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'une pause, ou est-ce qu'on fait juste continuer? J'ai au moins une personne qui veut une pause. J'ai deux personnes qui veulent... Alors, On va prendre une pause. Si vous voulez prendre une petite bière à notre petit coin, puis ensuite on continue ce processus très organique avec Alain. Merci.
Mais j'ai quand même un plan, j'arrive à le faire pas pire, mais comme.
On te croit, on te fait confiance.
C'est sûr que le plan est un peu chaotique des fois quand, à cause du processus.
Non, mais je pense que tu gères bien ça. Tant que tu sens que tu veux aller, tout va bien. Je te vois.
Je suis épatée par votre conviction, votre conviction. Ceci étant dit, pas sûr que j'y crois.